This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter. Le
18-20 aujourd'hui aux États-Unis pour le journal de la campagne présidentielle américaine signé Frédéric Carbone. Ailleurs dans le monde avec Michael Thébault, ce soir au Brésil, à Notting Hill et en Grèce. 18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier. Il fait son grand retour dans Un jour dans le monde. Un édito consacré à la Bild Zeitung, journal allemand qui lance une campagne d'aide et de soutien aux demandeurs d'asile. Mais tout de suite, la Chine.
Nicolas Demorand, Un jour dans le monde.
La Chine, pays que notre invité est parvenu à fuir après la prison et l'assignation à résidence. Un parcours de dissident, comme on le disait à l'époque du bloc de l'Est, qui a conduit cet homme aveugle, analphabète, à devenir avocat et à porter la voix des sans-voix. Il raconte sa vie qui est une vie absolument extraordinaire, dans L'avocat aux pieds nus, livre publié aux éditions du Globe. J'ai le plaisir de saluer Chen Guangcheng. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est Marie Holzman qui parle là.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Dissident, est-ce que ça vous va comme terme pour qualifier ce que vous êtes aujourd'hui ?
Je pense qu'on peut dire que d'une certaine façon, c'est le Parti communiste chinois qui est un dissident, parce que finalement, le monde entier a envie de démocratie, mais lui s'y oppose. Moi, je trouve qu'on devrait avoir toutes sortes de droits, le respect des droits de l'homme.
Donc,
en fait, nous sommes des défenseurs des droits civiques.
Voilà, donc avocat des droits de l'homme, c'est ça votre métier.
Oui, on peut dire ça.
Quel souvenir fort gardez-vous des 10 années qui viennent de s'écouler, 10 années où vous avez fui la Chine après avoir été arrêté, assigné à résidence, où vous vous êtes installé non sans mal aux États-Unis et où vous êtes devenu une figure de la contestation contre Pékin.
D'un côté, la gentillesse du peuple chinois et de l'autre côté, la violence de ce régime.
Je voudrais dire
à tout le monde que la violence du pouvoir chinois, vous ne la connaissez pas suffisamment. Si vous lisez mes mémoires, vous pourrez comprendre très clairement comment le pouvoir chinois opprime, violente sa population.
Il veut
maintenir son pouvoir et il utilise toutes sortes de méthodes et d'armes. Il attaque même les femmes et les enfants.
Racontez ce que vous avez vécu, vous, personnellement.
Bien sûr, je peux vous dire ce que j'ai vécu. Le Parti communiste chinois a envoyé toutes sortes de gangsters pour nous embêter à la maison. Ils nous ont surveillés, ils nous ont battus. Il y a des gens qui, à certains moments, m'ont fait coucher par terre. Ils ont enfoncé leurs genoux dans mon dos. Ils ont essayé de m'étouffer, ils m'ont battu. C'est incroyable ce qu'ils ont fait chez moi.
Et
ma femme a été battue, elle a eu une vertèbre, une côte qui a été brisée. Et 7-8 hommes l'ont immobilisé, l'empêchant de relever la tête, ils l'ont battue.
Et vous avez réussi à vous échapper ? À vous enfuir alors que vous étiez surveillé, assigné à résidence, chez vous. Mais chez vous, c'était pire que la prison, dites-vous, Chen Guangcheng.
Oui, c'était bien pire que dans une prison. Nos gardiens, ils habitaient chez nous, ils mangeaient à notre table. Quand on dormait, ils s'asseyaient à côté de notre lit et ils nous surveillaient pendant qu'on dormait. C'est ça le Parti communiste chinois.
Et
tout pendant 8 heures par jour au moins, ils nous insultaient, ils insistaient que on entend les enregistrements de ces insultes pour bien prouver qu'ils nous avaient insultés.
Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient pour vous faire subir à vous et à votre famille un tel sort ?
Je pense que ça a à voir avec mon caractère. Moi, j'ai refusé toutes les exigences anormales que le Parti communiste chinois avait contre pour moi. Et je refusais de collaborer avec eux. Alors peut-être que ça a provoqué l'attention de tous les Chinois et puis finalement de l'opinion internationale. Il y a beaucoup de gens qui sont allés voir ce qui se passait dans mon village. Et je dirais que ça a contribué à l'éveil de la population chinoise. Et ça, le gouvernement chinois n'aime pas que la population prenne conscience de ce qui se passe dans le pays.
Mais
par ailleurs, il y avait ce problème du planning familial. J'ai dénoncé les violences contre les femmes et le gouvernement chinois ne voulait pas que je dénonce et que je dévoile toutes les violences qui se passaient en Chine autour de la politique de l'enfant unique. Peut-être que ça fait partie, en partie, disons, des raisons pour lesquelles ils ont tant voulu me condamner au silence.
Comme vous étiez accusé, vous avez eu besoin d'avocats. Il y a une photo de vos avocats, de l'un de vos avocats, dans votre livre. Est-ce que vous pourriez la décrire, cette photo ?
Oui, à l'époque, le gouvernement chinois voulait empêcher les avocats de s'approcher de moi. Il ne voulait pas qu'ils me défendent. Mais pourtant, mes avocats, ils n'ont pas eu peur. Ils ont quand même voulu venir me défendre. Alors le PCC était furieux. Et cet avocat, quand il est venu me voir, il a été accueilli par des véritables gangsters qui l'ont accueilli avec des bâtons et ils ont commencé à le tabasser. Évidemment, au début, ils ont dit qu'il était en train d'embêter les filles, qu'il essayait de leur pincer les fesses. Mais personne n'a cru à ce mensonge.
Mais c'est une raclée qu'il a reçue. Il est quasiment mort quand on le voit en photo, ou en tout cas inconscient et très sévèrement blessé à la tête.
C'était
très grave parce qu'ils ont tabassé Li Fangping avec des bâtons en métal et ils ont brisé quelques-uns de ses os. Mes avocats sont incroyablement courageux. Il s'est fait soigner pendant 2 semaines et après il est revenu pour venir à mon secours.
Chen Guangcheng, quand vous repensez à ces années, vous y pensez avec une émotion intacte ou une colère immense ?
Oui, la colère est toujours là. Devant la violence du Parti communiste chinois, je dirais que personne ne peut imaginer leur violence. Souvent, on me demande si j'avais eu peur à l'époque, mais non, j'étais simplement terriblement en colère. Quand j'étais en prison, ils ont prétendu qu'ils m'avaient envoyé en prison pour des raisons juridiques, mais en même temps, ils continuaient à torturer ma femme avec des méthodes de gangsters et de mafia. Ils n'ont pas laissé les avocats venir me voir, mais j'avais une petite radio qui m'a permis d'entendre ce qui se passait. Le problème, c'est que je ne pouvais pas exprimer ma colère, parce que s'ils avaient deviné que j'avais cette petite radio, ils seraient venus me la confisquer et je n'aurais pas eu de nouvelles de l'extérieur. Je n'aurais pas su ce qui se passait dans mon village.
Et
j'ai été arrêté de façon illégale, mais au même moment, ils ont bousculé ma mère et l'ont renversé. Elle s'est par terre, elle s'est cognée la tête contre une marche et elle s'est blessée. Et tout cela, je ne pouvais pas réagir, je devais contenir ma colère.
Ma
mère disait, je suis si vieille et vous êtes si jeune, vous n'avez pas des vieilles femmes chez vous, vous ne savez pas ce que c'est que la vieillesse. Et les jeunes répondaient, on peut vous battre comme vous voulez, c'est un gouvernement qui n'a pas de honte.
Et on voit les photos effectivement de ceux que vous appelez les bandits et qui avaient la charge de vous surveiller. Quel destin absolument extraordinaire que le vôtre. Votre père voulait que vous soyez conteur. C'est un très beau métier, non, quand même, que de raconter des histoires, de passer sa vie à raconter des histoires. Pourquoi vous avez refusé ?
En Chine, les aveugles en Chine survivent grâce à des conteurs ou alors des gens qui prédisent l'avenir sur les lignes de la main. Mais ça, c'est une profession qui était réservée aux aveugles. C'était pas un choix. Et moi, je voulais pas me limiter à un destin aussi modeste. Je voulais avoir une vraie vie comme tout le monde.
Il fallait
montrer que les aveugles les aveugles pouvaient faire des choses pour la société, pour le monde, et qu'on n'était pas simplement des handicapés. Je voulais obtenir le respect de mes concitoyens. Parce que être un homme, c'est pas seulement manger à sa faim, c'est contribuer à l'amélioration de la société. Essayer de faire que tout le monde vive une vie meilleure.
Et puis vous dites à votre père qu'avec la radio et la télévision, le métier de conteur va connaître très prochainement une véritable concurrence et qu'il n'y a donc pas pour vous d'espoir non plus dans ce métier-là. Je vous pose la question parce qu'on s'aperçoit que ce soit en prison ou de manière plus émouvante quand vous évoquez les souvenirs avec votre père, la radio a un rôle important dans votre vie, que ce soit par le refus d'en faire ou alors parce qu'elle a pu vous apporter politiquement.
Oui, pour moi, la radio est mon premier professeur. C'était la seule façon que j'avais d'entendre les nouvelles, bien sûr. Après, j'ai vu le développement des technologies, des ordinateurs, etc. Mais à l'époque, sans radio, je n'étais rien. En prison, j'étais tout près d'un haut-parleur et je me mettais sous le haut-parleur et je mettais ma radio tout bas.
定期的, 他们要对监狱里的, 犯人的所有东西进行清监,
à époque régulière, ils fouillaient nos affaires et ils confisquaient tout. Mais moi, j'ai caché ma radio dans une petite boîte de lait et j'essayais de garder à cette boîte de lait l'apparence d'une vraie boîte de lait pour pas qu'ils puissent distinguer entre une brique de lait et une radio. Et ça a marché.
Quand ils partaient,
eh bien, je rouvrais doucement ma briquette de lait et à nouveau, j'écoutais tout doucement ma radio.
Chen Guangcheng, on a l'habitude de dire que la Chine est un pays qui tient par son économie. Je m'explique. Il n'y a pas de démocratie, mais il y a une telle croissance économique qu'au fond, l'enrichissement général du pays permet de mettre un couvercle sur les revendications politiques. Or, l'économie de la Chine aujourd'hui ralentit sérieusement. Est-ce que vous pensez que le ralentissement économique de votre pays pourrait déboucher sur des situations politiques inédites ?
Certainement. Parce que le pouvoir communiste est un pouvoir anormal qui s'est développé de façon anormale. Le PNB est artificiel. On peut dire que c'est une espèce de bulle spéculative. En fait, le marché occidental est beaucoup plus important pour la Chine que le marché chinois pour l'Occident. Mais malgré tout, la Chine utilise l'économie comme une façon d'intimider l'Occident. Alors, il faut utiliser, au contraire, le marché occidental pour rendre la Chine dépendante de nous et pas le contraire. Bien sûr, si le marché chinois n'était pas là, l'Occident continuerait à survivre.
Mais la crise économique en Chine peut déboucher sur une crise politique. Je vous repose la question.
Oui, je pense que c'est possible. Maintenant, c'est la seule façon pour le pouvoir chinois de rester en poste. S'il ne continue pas à se développer économiquement, les Chinois vont se poser la question, qu'est-ce que le pouvoir nous a apporté? Il nous a apporté toutes sortes de catastrophes. Et si le rythme du développement se ralentit, la population verra plus les catastrophes que les bienfaits du pouvoir. Déjà maintenant, la confiance de la population chinoise vers ce pouvoir est très très amenuisée. On peut dire que les Chinois se sont réveillés, ils sont conscients du fait qu'il y aura un changement de régime. On peut dire que la population chinoise s'y prépare, mais la préparation n'est pas encore suffisamment accomplie.
Est-ce que vous vous sentez exilé aujourd'hui, Chen Guangcheng? Je rappelle que vous vivez aux États-Unis, que vous vous êtes échappé de là où vous étiez enfermé, que vous avez fait 500 kilomètres dans des conditions extraordinairement difficiles pour rejoindre l'ambassade des États-Unis à Pékin, ce qui a créé un sacré problème diplomatique, et que vous avez enfin eu l'autorisation de rejoindre les États-Unis où vous vivez donc aujourd'hui en exil.
Mais pour moi, je dirais là où il y a des épreuves, des défis, je vais utiliser tous les moyens. Par exemple, là, je suis comme un arbre qui doit prendre des racines dans une nouvelle terre. Mais d'un autre côté, je me dis, je vais apprendre des nouvelles choses, je vais comprendre la civilisation occidentale, je vais m'imprégner de nouvelles connaissances, et tout ça, ça peut être utile pour la transformation de la Chine dans l'avenir.
Donc,
je prends ça comme des défis et des opportunités.
Mais vous reverrez votre pays un jour ou c'est fini ?
Bien sûr, je vais revoir mon pays un jour, parce que le PCC ne pourra pas rester au pouvoir éternellement. La population s'est réveillée et je pense qu'elle veut aller vers la démocratie. Cet éveil est très important. Les Chinois ont commencé à comprendre que demander le respect du droit, la démocratie, c'est important. Et c'est pour ça que le pouvoir réprime la population avec tant de violence, parce qu'elle a peur des revendications de la population. Mais quoi qu'il en soit, c'est la roue de l'histoire et le Parti communiste chinois ne pourra pas éternellement s'opposer à la marche de l'histoire. Et je voudrais que la population internationale continue à soutenir le peuple chinois et pousse le gouvernement chinois à céder à ces pressions et à s'orienter vers la démocratie. Si la démocratie occidentale ne peut pas avoir de l'influence sur le gouvernement chinois pourra saper les valeurs universelles de l'Occident. Et ça, c'est beaucoup plus grave.
En tout cas, on entend bien que vous avez la ferme intention de revenir dans votre pays. J'ai vu que vous étiez né en 1971. Vous avez donc 44 ans. Vous avez la vie devant vous. Et je ne peux que vous souhaiter, effectivement, de retrouver un jour ceux que vous avez laissés là-bas et auxquels vous pensez bien évidemment dans ce livre qui s'intitule donc « L'avocat aux pieds nus » qui est publié aux éditions Globe. Je vous remercie beaucoup, Chen Guangcheng, d'être passé par le studio de France Inter et d'avoir pu parler au micro, vous qui avez été un tel auditeur de radio dans votre vie. Merci également à Marie Holtzmann qui a assuré la traduction simultanée de vos propos. À suivre ailleurs dans le monde avec Michael Thébault. On écoute Yeli, ouais. Voilà, ça y est, j'y arrive doucement. Yeli, Yeli. Le morceau s'appelle Yema.
I am
Voilà, le morceau s'appelle donc Yéma et on le doit à Yeli Yeli. 18h37.
Datiladas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, c'est le petit journal de l'international signé tous les soirs. Michael Thébault, bonsoir Michael.
Bonsoir Nicolas.
Direction le Brésil pour évoquer un tabou tout autant qu'un drame humain, l'avortement clandestin.
Et clandestin Nicolas, parce que toujours illégal et le chiffre est terrifiant. Selon l'OMS, une Brésilienne meurt tous les deux jours des suites d'un avortement pratiqué clandestinement. Et les femmes les plus pauvres sont évidemment les plus touchées. Bonsoir Anne Vigna, en direct de Rio.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, Anne, l'avortement est-il toujours aussi tabou et pourquoi dans cette société brésilienne ?
Oui, tout à fait. Hein. L'avortement n'est jamais abordé en termes de santé publique, mais le débat tourne toujours autour de la question religieuse. Alors au Brésil, 76% de la population est catholique ou évangélique et vous le savez, ces religions chrétiennes sont totalement opposées à la légalisation de l'avortement. Et pourtant aujourd'hui, grâce aux études qui ont été faites, on dispose de beaucoup de données qui montrent à quel point l'avortement est important dans la société. Et c'est ce que nous explique Béatrice Gilly, elle est chercheuse et spécialiste de la question au Brésil.
Une Brésilienne sur cinq a déjà réalisé un avortement dans sa vie. Et leur profil est celui de femmes mariées qui ont déjà eu des enfants. Elles sont pratiquantes, elles appartiennent à toutes les classes sociales. L'étude estime que près d'un million de femmes avortent chaque année et 250 000 femmes sont hospitalisées par an suite à des complications d'avortement clandestin. Dans les débats au Congrès, pour ne pas légaliser l'avortement, l'argument des députés a toujours été de dire que l'avortement n'était pas si fréquent. Mais l'avortement est l'une des causes principales d'hospitalisation des femmes. Et dans certains hôpitaux, il y a autant de femmes qui accouchent que de femmes qui viennent après des complications lors d'un avortement clandestin.
Alors concrètement, Anne, comment tant de femmes font-elles pour avorter si l'avortement reste clandestin ?
Alors c'est vraiment la débrouille hein, pour les femmes. On se repasse souvent les adresses et conseils entre copines. Celles qui ne peuvent pas payer une clinique, en fait, tentent un avortement avec le médicament Cytotec au Brésil. C'est un médicament qui est contre les ulcères et qui est recommandé par l'OMS pour les avortements jusqu'à la 9e semaine. Et comme il n'est délivré que sous ordonnance, il existe un vaste trafic pour l'obtenir. Déborah Diniz est anthropologue à Brasilia et elle a réalisé une étude très complète sur ce trafic de médicaments.
Le Cytotec est la principale méthode abortive utilisée au Brésil. Il existait beaucoup de rumeurs sur les vendeurs de Cytotec qu'on croyait être des trafiquants de drogue du type cocaïne ou crack. Mais en réalité, c'est un pharmacien populaire qui vend ses produits grâce à l'aide d'une pharmacie. Il existe un deuxième personnage dans ce trafic très peu connu qui est le grand trafiquant international de médicaments. Le Cytotec vient au Brésil via le trafic international de médicaments, mais il arrive jusqu'à la femme via ce vendeur qui est à la porte des pharmacies.
Les femmes n'ont donc pas de garantie sur sa qualité et quand il n'est pas bon, les complications peuvent être tragiques si la femme ne se rend pas très rapidement dans un hôpital.
L'avortement clandestin au Brésil. Anne Vigna, en direct de Rio, merci beaucoup.
Et direction maintenant la Grèce, mer Égée. 2500 réfugiés ont encore été secourus ces trois derniers jours par les gardes-côtes, Michael.
Et vous l'avez peut-être entendu, hein, ici même ce matin, dans le 7-9 de France Inter, l'île de Kos au large de la Turquie, qui n'en peut plus. Ces touristes qui fuient les plages envahies par les migrants, les commerçants qui disent leur ras-le-bol, les autorités dépassées. Eh bien, à une demi-heure de là en bateau, sur l'île de Kalymno, juste en face, la situation n'a rien à voir. Là, l'île est beaucoup plus petite, moins touristique, moins riche, mais beaucoup plus solidaire, et c'est même une tradition. Bonsoir Angélique Kouounis, en direct de Grèce.
Bonsoir.
Alors sur Kalymno, Angélique, on peut le dire, hein, l'île tout entière vient en aide aux réfugiés.
Effectivement. Dès qu'on arrive sur le port de l'île, on voit des matelas, même le sol partagé avec un point d'eau ouvert à tous. Les réfugiés qui n'ont pas trouvé de place dans le dortoir aménagé dans les anciens abattoirs de l'île attendent là leurs papiers. Les volontaires se relaient tous les jours pour les aider.
Ce qu'il faut maintenant, c'est agrandir et installer plus de douches et toilettes pour que les femmes musulmanes qui sont très pudiques puissent avoir accès aux sanitaires. Il faut des installations. Quant à nous, on est une commission de volontaires et nous distribuons les dons des habitants de Kalymnos qui soutiennent beaucoup les réfugiés avec des jouets, de la nourriture, des vêtements, toutes sortes de produits sanitaires et de première nécessité.
Alors cette compassion et cette détermination à aider ceux qui arrivent se retrouvent aussi à la mairie qui doit livrer bataille avec la bureaucratie et écouter Ioannis Kalamitakis, maire adjoint de Kalymnos.
Les Kalymniotes ont toujours été trop nombreux pour pouvoir survivre sur l'île. Alors l'émigration en connaît. Le bâtiment que nous voulons modifier appartient à la mairie, mais nous n'avons pas le droit de dépenser de l'argent pour couvrir les besoins élémentaires des migrants. On le fait quand même, en bidouillant les codes informatiques dans la comptabilité. On n'a pas le choix.
Voilà, la mairie qui truque hein, ses comptes. Et il n'y a pas que les pouvoirs publics angéliques, l'église orthodoxe elle aussi se mobilise.
Oui, absolument. L'Église ne peut pas être en reste selon le pape Yorgos. Et à ses yeux, il est même beaucoup plus important d'aider que d'aller à la messe tous les jours. Écoutez-le.
On est en ligne presque tous les jours avec les gardes-côtes qui nous disent on a besoin de nourriture pour 50, 100, 200 personnes, encore et encore. Alors on s'y met, on cuisine et on leur apporte à manger, parfois 11h, même minuit.
Le pape Yorgos, comme la mairie et tous les volontaires, s'attendent à des arrivées massives dans les semaines qui viennent. Ils espèrent pouvoir y faire face, mais rien n'est moins sûr. Il faut, disent-ils, que l'Europe débloque des fonds et une réelle volonté pour aider des réfugiés qui ne cessent d'affluer.
Angélique Kourounis, de retour donc des îles grecques de Kalymnos et de Kos. Merci beaucoup. En bref, c'est non, Nicolas. L'Iran refuse la venue à Téhéran du célébrissime chef d'orchestre Daniel Barenboim, à la tête, vous le savez, de la Staatskapelle de Berlin. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, doit se rendre très prochainement en Iran et il avait accepté de parrainer le concert. Tout semblait bien parti, et bien non. Le ministère iranien de la Culture a fait savoir hier que c'était impossible. L'orchestre, d'accord, mais pas son chef. Explication, je cite, « Notre enquête montre que le chef d'orchestre a un lien national et identitaire avec Israël. Il y a été élevé et ses parents vivent là-bas. Il a donc un lien avec ce pays qui est illégitime. » Fin de citation.
Et pour finir sur une note autrement plus festive, Michael, on vous amène maintenant au cœur de Londres.
Oui, un cœur qui bat Caraïbes. Deuxième et dernier jour aujourd'hui du carnaval de Notting Hill à Londres. La plus grande manifestation de rue en Europe. 1 million de personnes en 2 jours. Bonsoir Franck McVon, en direct de Londres.
Bonsoir Michael.
Alors la parade finale a lieu en ce moment même, et même sous la pluie, il y a de l'ambiance.
Oui, les Caraïbes à Londres, mais sans le soleil. C'était plutôt saison des pluies hein, aujourd'hui, Michael. Tant de chiens à Londres, donc. Mais ça n'a pas empêché la fête. Plus de 60 groupes de musiciens et danseurs prennent part à ce défilé géant chaque année dans les rues cossues de Notting Hill. Les costumes, les véhicules sont souvent très impressionnants. Un festival de couleurs avec beaucoup de participants, en très petite tenue parfois. Alors au départ, c'était vraiment la fête des Caribéens, Jamaïque, Trinidad et Tobago, la Barbade. Aujourd'hui, les groupes viennent du monde entier, comme l'explique Al, qui habite le quartier depuis 40 ans.
Les gens viennent du monde entier pour voir ça. Regardez, tout le monde est heureux. Peu importe la pluie, les gens sont là pour la fête. Il y a toutes sortes de sound systems. Jamaïcains, Malaisiens, Indonésiens, Sri Lankais, Anglais, Arabes, Brésiliens. Des femmes à moitié nues, topless. C'est très fun. Et il y a plein de nourriture, la meilleure qui soit, c'est vraiment sympa.
Alors ce carnaval, hein, Franck, c'est vraiment Londres, contrairement à Paris, qui célèbre sa diversité culturelle.
Et oui, Londres est bien sûr l'une des villes les plus cosmopolites au monde. Le carnaval est une sorte de parenthèse dans le débat sur l'immigration. Pendant un week-end, toutes les communautés, toutes les cultures sont célébrées. Alicia est une londonienne originaire de Sainte-Lucie. Elle ne rate jamais la grande fête de Notting Hill.
Il faut être là, on ne peut pas rater ça. Comme vous le voyez, je viens des Caraïbes, de Sainte-Lucie, la plus belle île de la planète. C'est fabuleux ce carnaval, ça rassemble tout le monde.
Et la météo, ça n'a rien de caribéen aujourd'hui.
Vous savez quoi ? Oubliez la météo, on s'en fiche. Il pourrait bien neiger, je serais là quand même. Et les gens viendraient nous voir. J'adore cette fête. C'est pas la météo qui va m'en priver. Comme vous voyez, on est dans la rue, que le soleil brille ou qu'il pleuve.
Voilà, Michael, je vous attends donc l'an prochain, fin août, avec Nicolas Demorand, j'espère, en plume et en string, hein, sous la pluie à Londres.
Avec plaisir, la parenthèse caribéenne de Londres, avec vous, Franck Madvon. Merci beaucoup et à demain.
À demain, Michael. One, two, get down. I announce my candidacy for president of the United States. Don't you someday want to see a woman president of the United States of America? I believe in you.
Un jour dans le monde. sur France Inter.
Et après la Nouvelle-Orléans, il a retrouvé Washington. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Nicolas Demorand. Et je vous attends moi aussi à Washington avec Michael. Il n'y a pas de pluie comme à Londres.
Il n'y a pas de pluie, oui.
Bon. Il y a de la musique aussi ici, parfois il n'y a pas de pluie.
On viendra plus habillé qu'à Londres, correspondant de France Inter aux États-Unis. Frédéric, on commence notre journal de la campagne du côté démocrate cette semaine. Qui est Bernie Sanders? Élément de portrait, Frédéric.
Bah écoutez, on pourrait résumer en disant que c'est le socialiste qui ne fait pas peur à l'Amérique. En tout cas pas aux démocrates, puisqu'il réunit des milliers de personnes dans ses meetings et qu'il grignote régulièrement des voix dans les sondages à Hillary Clinton. Bernie Sanders, en fait, est un indépendant, affilié à aucun parti, élu du Vermont, état de l'Est des États-Unis, depuis 1990 au Congrès. Il a voté non seulement contre la guerre en Irak en 2003, mais aussi contre la guerre du Golfe de Bush père en 90. Et à 73 ans, ce fils d'immigré polonais reste fidèle à des convictions sociales qu'il porte depuis les années 60. Il a un peu fallu donc cette campagne des primaires pour qu'il trouve une audience nationale. Et dans le dernier sondage, dans l'Iowa, publié il y a quelques jours, l'Iowa c'est le premier état, hein, on vous l'a dit, où on va voter le 1er février prochain, il a 7 points de retard sur Hillary Clinton, 30 contre 37. Avant l'été, il était à moins de 10 points. Du coup, Bernie Sanders devient un peu l'attraction politique et médiatique du moment, présent hier dans toutes les émissions télé du dimanche. Le voilà, par exemple, sur la chaîne ABC.
Les gens sont sensibles à notre message parce que quelque chose ne va pas quand la classe moyenne continue de disparaître, quand on travaille dur pour des bas salaires et quand presque toute la richesse va dans les poches d'1% de la population. Ce n'est pas le genre de pays, ce n'est pas le genre d'économie que les Américains veulent, ce n'est pas le genre qu'ils méritent. Les gains que nous enregistrons, les foules que nous déplaçons, ce n'est pas contre Hillary Clinton, mais c'est pour Bernie Sanders et pour notre message. Trop, c'est trop. Ce pays et ce gouvernement appartiennent à tous et pas seulement à une poignée de riches.
En fait, on a un peu un processus similaire à 2008. C'est aussi à cette période, début d'automne, qu'Hillary Clinton avait dévissé dans les sondages en Iowa au profit de Barack Obama et de John Edwards. On est dans un état qui aime les outsiders. Vraie interrogation quand même. Personne aujourd'hui n'imagine Bernie Sanders capable de réunir la même coalition jeune, noire, progressiste sur le plan économique qu'un Barack Obama.
Alors un mot, Frédéric, juste un seul de Donald Trump. Il commence à attirer du très beau linge, hein.
En tout cas, du monde qui compte. On reste dans l'Iowa, tout le monde regarde vers ce premier test. Donald Trump vient d'enregistrer le ralliement d'un des plus influents dirigeants républicains qui dirigeait la campagne d'un autre candidat, qui a rejoint Trump. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines encore, dans des emails publiés par la presse locale, cet homme lui reprochait à Trump de ne pas être assez religieux, d'être pour l'Obamacare, d'avoir évité de servir dans l'armée. Pourquoi j'ai changé ? Ben, ça regarde que moi, dit aujourd'hui cet élu. Juste un mot pour avoir une idée de l'état d'esprit des républicains en ce moment et de la déstabilisation de leurs représentants. Dans l'Iowa, Trump est en tête devant le neurochirurgien Ben Carson et l'ancienne patronne de Hewlett-Packard, Carly Fiorina. Les politiques, tous les politiques, Bush et autres, ils sont derrière.
Et puis on se souvient, Frédéric, des images absolument atroces de ces deux journalistes abattus en direct à la télévision américaine. Est-ce que ce qui s'est passé là et qui est sans précédent a relancé le débat sur les armes, notamment dans cette campagne pré-présidentielle ?
Non, ben il est absent ce débat ou presque de la campagne des primaires. On aurait pu imaginer après un tel choc un déferlement de prise de parole de la part des candidats. Ce qui frappe au contraire, c'est la discrétion. À part Hillary Clinton qui s'en est pris au lobby des armes de la NRA, chez les républicains, Donald Trump résume en une phrase l'avis général. C'est pas un problème d'armes, c'est un problème de maladie mentale. Et il faut une fois de plus que les proches des victimes comptent sur la pression citoyenne. Voici ce que dit Andy Parker. Il est le père de la journaliste assassinée.
Ce que je voudrais, c'est que tout le monde reste mobilisé sur cette question. Il ne faut pas se dire « Oh, encore un incident horrible, mais qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir ?» Il faut exiger une législation raisonnable qui élimine les failles dans le contrôle des ventes d'armes. Ce qui compte, c'est que cet homme était mentalement dérangé et qu'il a quand même pu satisfaire aux vérifications. Les gens pensent parfois que la Californie réglemente trop, mais le texte qu'ils ont adopté sur la limitation des ventes d'armes aurait sans doute permis que cela n'arrive pas. Ici, en Virginie, une loi a été envisagée et rien ne s'est passé. Le sénateur qui nous représente fait ce que la NRA lui demande et il a voté contre.
La NRA qui continue de noter tous les candidats aux élections locales et nationales sur une échelle de 1 à 5 en fonction de leur sympathie à la cause des armes en vente libre.
Et on termine, Frédéric, avec la cultissime info inutile de la semaine.
Et c'est une info inutile qui vous permettra, Nicolas, de briller dans les dîners en ville.
Ah.
Parce que j'ai cru comprendre qu'en France, le cas Trump, hein, passionné. Donc à la fin d'une discussion sur le thème « Est-ce un clown ? Est-il dangereux ? Est-il un produit spécifiquement américain ou pas ?» Bon, ben vous pourrez faire remarquer, Nicolas, que si les candidats, ce ne sera pas la première fois que les Républicains choisissent un patron pour les représenter à la présidentielle. En 1940, Wendell Willkie avait été désigné contre Roosevelt. Son thème de campagne « Je suis dans le business et fier de l'être », très anti-New Deal à l'époque, mais avec la perspective d'entrée en guerre des États-Unis, il avait été sévèrement battu.
Alors Arnaud Le Parmentier, qui dîne très souvent en ville, a pris toutes les notes et il pourra briller grâce à vous, Frédéric Carbone.
Allez, faites un duo, montez un duo.
Merci et rendez-vous
à bientôt.
Lundi prochain, Bobby Womack.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman next week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free.
Alors, il faut au moins ça comme générique pour Arnaud Le Parmentier, Bobby Womack.
Le 18-20, Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
Car c'est sa grande rentrée. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Je rappelle que vous êtes une plume étincelante du quotidien Le Monde. Votre édito ce soir sur l'Allemagne et les demandeurs d'asile.
Nous aidons. Le titre est écrit en lettres gigantesques en une du quotidien. Il est suivi d'un hashtag généreux, Refugees Welcome. Les réfugiés sont bienvenus. D'où vient cette initiative ? De la gauche française réunie à La Rochelle et si généreuse en parole ? De nos amis italiens submergés par une vague de migrants, Neni Nicolas, cet appel est lancé depuis samedi par la Bild Zeitung. Oui, vous savez, le tabloïd allemand qui appelait à sortir les Grecs de la zone euro, les invitait à vendre leurs îles paradisiaques. Ainsi sont les Allemands paradoxaux. Ils ne veulent pas payer pour ceux qui ont, selon eux, fauté les Grecs. Mais ils se veulent bons samaritains et accueillent les réfugiés qui submergent le pays. 800 000 en un an, venus de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Afrique d'ici la fin de l'année.
Et comment se fait-il que ce soit la Bild qui prenne l'initiative ?
Ben Nicolas, la Bild, c'est pas ce que vous croyez. C'est l'âme populaire allemande avec tout ce qu'elle peut avoir d'exécrable, mais aussi de séduisant. Elle tire à plusieurs millions d'exemplaires, elle affiche sa plémette dénudée en une et plus, en page intérieure si affinité. Elle est l'équipe avec ses pages sport, elle est le Parisien avec ses faits divers quotidiens. Elle est le 20h de TF1. Lorsqu'un homme politique a une déclaration à faire, il le fait dans une courte interview, 2000 signes tout compris. Elle est la référence des hommes politiques. Le chancelier Schröder expliquait qu'il commençait chaque matinée sa lecture des journaux par la Bild Zeitung et finissait par la très sérieuse Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et surtout, la Bild est populiste, mais elle fait attention de ne jamais franchir les bornes. Elle est 100% derrière Israël. Elle fut viscéralement anticommuniste et construit son siège à Berlin-Ouest, juste devant le mur pour narguer le régime de Necker. Aujourd'hui, elle met le holà à toute xénophobie alors qu'affluent les réfugiés. La Bild, c'est l'Allemagne d'aujourd'hui.
Alors comment expliquer la réaction de l'Allemagne aujourd'hui, précisément, cette réaction qui tranche avec celle qui fut la sienne sur le cas grec ?
La chancelière allemande a été prisonnière derrière le rideau de fer. Elle a une compassion profonde pour les réfugiés politiques victimes des dictatures et de la guerre. Elle les accueille donc et sans faire de juridisme. Les règles européennes prévoient qu'un réfugié doit demander l'asile dans le pays où il est entré, la Grèce, l'Italie bien souvent. En fait, Merkel a suspendu cette règle pour les Syriens. Elle offre l'asile à tous ceux qui le demandent sans chercher à les renvoyer en Italie ou en Grèce. Deuxièmement, L'Allemagne a un peu honte de ne pas prendre ses responsabilités, de se défiler à chaque fois qu'il faut intervenir militairement au Mali, en Syrie ou de risquer la vie de soldats allemands. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ne font pas la guerre, ils payent. 3. L'Allemagne est en quasi plein emploi. L'afflux de réfugiés plutôt éduqués n'est pas aussi problématique que dans une France en proie au chômage de masse. 4. L'Allemagne n'a pas le choix. Les Syriens, les Érythréens, les Irakiens sont sur son sol. Il faut les accueillir. Et 5. La chancelière est très inquiète des attaques contre les asiles de réfugiés qui se multiplient. Elle est inquiète des manifestations anti-musulmanes dans l'est du pays. Elle a donc choisi d'être intraitable. Au lieu de dire à ses concitoyens « nous comprenons vos soucis », Angela Merkel est intraitable avec les Allemands dès qu'une dérive extrémiste menace. On aimerait un discours plus généreux assumé en France plutôt que d'avoir peur de son ombre. Quand Marine Le Pen prétend à tort que la France est submergée par une vague migratoire, alors que pour l'instant, ce n'est qu'une petite vaguelette.
Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde, merci et à demain. Un mot du téléphone sonne à 19h20. Il portera sur l'école, l'école de la République qu'on dit en crise, pour certains même à bout de souffle. Peut-on, doit-on la changer? Et si oui, dans quel sens? Franceinter.fr, Twitter via le hashtag Telson et bien entendu le standard 01 45 24 7000. Il est ouvert et il attend tous vos appels. La pub et le journal de Sébastien Paour.